$786,45. Je vous rappelle que le CAC 40 est de plus en plus ferme. Il ne perd plus que 0,15% à 3278 points. C'est Antoine Verlin, la Bourse de Paris pour France Inter.
La Bourse en temps réel, tous les cours, les indices et les marchés, sur votre Minitel 3615 France Inter, rubrique Bourse, 35 centimes d'euros la minute, ou sur votre téléphone au 0892 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute.
La combinaison gagnante du 4 et plus, 11, 5, 12, 3 et As. 11, 5, 12, 3 et As. Il est 14h03, vous écoutez France Inter, c'est l'heure de 2000 ans d'histoire et c'est avec Patrice Gélinet bien sûr, bonjour.
Bonjour Claire et bonjour à tous. Aujourd'hui, qui a inventé l'école ?
Nous voulons que des écoles soient créées pour apprendre à lire aux enfants. Charlemagne, Admonitio Generalis, 789.
D'histoire. Depuis 1968, de manifestations d'étudiants en grève des enseignants et de réforme en réforme, on a rarement autant parlé de l'école. Mais on connaît mal son histoire et on oublie souvent que l'aventure de l'enseignement n'a pas commencé avec l'école que l'on connaît aujourd'hui, l'école gratuite, laïque et obligatoire de Jules Ferry. Bien avant les instituteurs de la Troisième République, les moines de l'école de Charlemagne, puis les professeurs de la Sorbonne, apprenaient déjà à leurs élèves des disciplines qui étaient enseignées depuis longtemps, quand le plus grand conquérant de l'histoire avait pour professeur un des philosophes les plus célèbres de l'Antiquité.
Salut à toi, Aristote.
Salut à toi, Alexandre. Titus est revenu.
Titus, pourquoi mon père t'envoie-t-il ? Pour exercer de nouvelles troupes et les lui amener. Pour que nous combattions.
Je n'ai pas reçu d'ordre en ce sens.
Gloire à Philippe. Mais il thésaurise la gloire comme un avare. Tandis que nous restons à Miezza au pied d'Aristote à découvrir les mystères des sciences, des mathématiques, de l'histoire, de la logique. Et que probablement l'un de nous va composer un ouvrage et devenir célèbre comme disciple d'Aristote.
Aristote, pardonne-moi.
Pourquoi donc ? Tu as parlé en roi. Et moi en pédagogue.
Michel Rouge, bonjour.
Bonjour.
Alors, on voit dans cet extrait de péplum que les matières enseignées à l'école aujourd'hui sont à peu près les mêmes que celles qu'étudiaient les élèves d'Aristote.
Oui, alors, il manquait la géographie.
Et puis, il manquait surtout une matière qui est vraiment très absente de l'enseignement, je trouve. C'est que l'école n'apprend pas sa propre histoire. Or, on la découvre en lisant votre livre, hein, l'histoire de l'enseignement et de l'éducation, depuis l'Antiquité jusqu'à la Renaissance, qui est, je crois, le premier, au fond, à traiter dans l'ensemble, hein, de l'enseignement, depuis l'Antiquité. L'Antiquité, où l'école, à l'époque d'Alexandre, était surtout réservée à une élite, Michel Rouge. Il fallait être prince pour avoir droit à l'enseignement d'Aristote.
Mais il y avait aussi, dans les grandes cités démocratiques comme Athènes, il y avait des possibilités d'aller à des écoles que nous appellerions aujourd'hui primaires, où on apprenait à lire et à écrire, jusqu'au jardin d'Académos, où enseignait Aristote, ou bien le lycée, où enseignait Platon. Hein, il y avait donc déjà tout un cycle d'enseignement créé par les Grecs, avec les trois grands cycles ont caractérisé plus tard l'enseignement en général, à savoir les arts libéraux, puis les sciences en soi, telles qu'on les comprenait à cette époque-là, et enfin la spécialisation dans telle ou telle discipline. Les Grecs ont inventé un enseignement à dominante littéraire et humaniste qui a considérablement impressionné les Romains et que les Romains ont adopté.
En revanche, Michel Rouche, il négligeait l'apprentissage professionnel parce qu'on méprisait à l'époque le travail manuel, hein, qui était indigne d'un homme libre. Au fond, c'est un peu le mépris dont nous avons hérité, nous, pendant des siècles, avec l'enseignement professionnel.
À cause de la société esclavagiste. Aristote disait, le jour où les plectres joueront tout seuls sur les lyres et où les navettes voleront tout seuls sur les métiers à tisser, ben, il n'y aura plus besoin d'esclaves. Hein. Autrement dit, nous sommes condamnés à l'esclavage, donc on laisse le travail manuel aux esclaves et les loisirs intellectuels, c'est pour les gens libres, ceux qui ne sont pas esclaves.
Et parmi les esclaves, alors, il y avait ce qu'on appelle le pédagogue. Moi,
j'ai toujours cru que c'était le professeur. Pas du tout. Dans l'Antiquité, le pédagogue, c'est l'esclave qui conduisait l'élève à l'école.
Voilà. Surtout à Rome, où lorsque les Romains ont conquis Athènes, ils ont emmené comme prisonniers de guerre tous les professeurs qu'ils ont pu trouver. Ils les ont réduits en esclavage. Et c'était eux qui étaient chargés d'emmener le gamin le matin à l'école avec son écritoire et ses rouleaux et ses stylets pour écrire. Ils le ramenaient ensuite. Et le professeur lui-même, très souvent, était un esclave. Et les salaires des professeurs dans l'Empire romain étaient extrêmement bas.
Alors cet enseignement, Michel Rouche, a été ensuite donc transmis, vous le dites, aux Romains. C'est un enseignement, au fond, qu'on a conservé dans ses grandes lignes jusqu'à nos jours, y compris lorsqu'à la fin de l'Empire romain, le christianisme s'est en quelque sorte emparé de l'enseignement. Et pendant des siècles, les professeurs seront des moines, seront des prêtres.
Alors, il faut souligner un fait, c'est que cet enseignement était devenu un enseignement tellement chargé, tellement lourd, hein, puisque les enfants, dès l'âge de 7 ans, étaient obligés d'être trilingues. Leur langue maternelle, plus le latin à apprendre, plus le grec à apprendre, plus la grammaire, la rhétorique, la dialectique, l'astronomie, la géométrie, l'astronomie et la musique. Saint Augustin lui-même, à 74 ans, se plaint encore avec amertume des coups de bâton qu'il a reçus quand il était gamin. Cet enseignement était vraiment très, très, très lourd, et il est mort de sa belle mort.
Alors ce qui est assez étrange, vous le rappelez, c'est que finalement le christianisme a gardé à la fois les méthodes et même le contenu de l'enseignement de l'Antiquité. C'est-à-dire qu'on enseignait encore des auteurs païens comme Virgile ou comme Cicéron, les chrétiens ont simplement rajouté la Bible.
On a rajouté la Bible, on a gardé le premier cycle, grammaire, rhétorique, dialectique, le deuxième cycle, astronomie, géométrie, astronomie, musique, et finalement les méthodes d'enseignement, le commentaire de texte, l'apprentissage par cœur, et la méthode pédagogique de base qui s'appelle le bâton était fondamentale dans cette école, et les chrétiens n'ont fait que ramasser un enseignement qui était en quelque sorte mort et ont commencé alors à créer quelque chose qui était à la fois neuf et ancien.
Et en démocratisant un enseignement étendu au plus grand nombre possible d'enfants, ça c'est la révolution qui s'est produite 1000 ans avant la Révolution française, en 789, grâce à un moine anglais que rencontrait Charlemagne à la fin du 8e siècle.
Qui es-tu ?
Un moine qui vient de loin, du pays des Angles.
Ton nom ?
Alcuin d'York.
Et tu sais qui je suis ?
Non, oui. Tu es fort, jeune, bien fait, mais ignorant. Et ton peuple doit s'instruire. Tu veux que les Francs bâtissent un empire avec des armes ? Non, il vaut mieux les éduquer. Et rappelle-toi, la foi et le savoir vont de pair en ce monde. Seul un peuple qui peut lire étudiera. S'il sait écrire, il fera des lois afin de défendre sa religion. Tu comprends ?
Cela demandera du temps et des larmes.
Toute ta vie.
On dit souvent, Michel Rouche, que Charlemagne, qui ne savait pas lire et pas écrire, je crois, est celui qui a inventé l'école. On oublie toujours le nom de cet homme qui a été en quelque sorte son ministre de l'éducation et qui était Alcuin, un Anglais.
Un moine anglo-saxon, originaire du nord de l'Angleterre, qui peut être considéré comme l'instituteur de l'Occident médiéval, parce que c'est lui qui a appuyé constamment et a fait répéter les ordres de Charlemagne pour multiplier les écoles cathédrales, les écoles monastiques, les écoles paroissiales. Mmh. Et Charlemagne, dont la langue maternelle était l'allemand, ne l'oublions pas, a fini par apprendre à lire et à écrire très tard, nous dit Eginhard, et il savait quand même écrire.
Eginhard,
simplement,
c'est son biographe,
il ne savait pas calligraphier, mais il a toujours écouté Alcuin, et bien d'autres conseillers ecclésiastiques de ce genre-là l'ont aidé à généraliser les écoles dans l'Empire carolingien, même si il n'y a que 600 et quelques monastères et 200 et quelques cathédrales, plus les écoles paroissiales.
Donc en fait, il fait renaître, en quelque sorte, c'est une renaissance de l'enseignement, c'est pas une invention.
Non. Hein. Il la repousse, simplement, et il la généralise, étant donné que ses initiatives datent de 529, le concile de Vinzon à Romaine, où les principes de l'enseignement à la fois littéraire, romain et chrétien ont été définis, et c'est l'essor d'un nouvel humanisme qui se produit à ce moment-là.
Et la finalité de tout ça, pourquoi est-ce que Alcuin pousse Charlemagne à redresser en quelque sorte l'école, et pourquoi Charlemagne accepte-t-il ? Quel est l'objectif ? Évangéliser ?
L'objectif est à la fois d'évangéliser, mais aussi de généraliser le sens de la loi par conséquent, d'un texte écrit qui va créer l'ordre et qui va faire que la société, au lieu d'être une société où l'on est tout le temps en train de se battre, va avoir recours au procès, au droit romain, permettant de régler les conflits d'une manière pacifique. Donc le but est à la fois politique et religieux.
Avec cette admonitio generalis de 789, donc, qui recommande la création d'écoles dans l'ensemble de l'Empire.
Mes enfants, c'est en sachant lire et écrire que vous serez utiles. Le pays a besoin d'érudits autant qu'il a besoin de combattants.
C'est vrai.
Prenez exemple sur Regina. Sa science est si grande qu'il arrive à lire et à écrire d'autres langues. Il sait lire et écrire, parler l'arabe. Cet homme peut lire la Bible dans le texte et en latin. Vous vous rendez compte? C'est la langue de l'ancien empire romain. Le rêve serait que tous ces pays arrivent à se comprendre.
On pourrait s'entretenir avec les peuples de Bavière, de Cordoue, de Saxe, de Lombardie.
C'est juste. Une fois que vous saurez lire et écrire les lettres, votre récompense sera d'apprendre le latin.
Et de l'enseigner aux autres.
Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école?
Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école?
C'est ce sacré Charlemagne.
Pardon pour cet anachronisme, Michel Rouche. En tout cas, il vous fait sourire, hein, cette chanson de Franz Gall. On peut pas ne pas la mettre, c'est incontournable.
Tout à fait. Mais en même temps, il faut souligner qu'en enseignant le latin de cette manière-là, le latin est devenu une langue universelle, commune à des gens qui avaient plusieurs langues. Et par conséquent, le latin était unificateur. C'était l'anglais de l'époque. C'était quand même très pratique. Et quand il s'agissait de faire un érudit, comme il le disait tout à l'heure, ça veut dire qu'en latin, rudis, ça veut dire la brute. Et eruditus, ben, c'est la brute qui a été écarie.
Alors on apprend l'origine de tas de noms qu'on emploie aujourd'hui dans l'enseignement, par exemple le mot collège. L'école n'était pas, n'étant pas obligatoire, elle était réservée à peu de gens. D'ailleurs, quel est le pourcentage à l'époque de Charlemagne d'élèves qui étaient scolarisés? Est-ce qu'il y avait des filles aussi,
on peut
par
supposer,
exemple?
Oui. Dans tous les monastères de femmes, il y avait une école pour les filles. Alors, il y a beaucoup plus de monastères féminins que de monastères masculins. Par conséquent, elles n'étaient pas en retard. Mais tout ce qui concerne le problème de cet enseignement, c'est que si pour 2-3% de gens et qui vont dans ces écoles, petit à petit le nombre va en augmentant, étant donné que ces écoles cathédrales ou ces écoles monastiques sont allées en se multipliant et qu'au bout d'un certain temps, comme le pape Alexandre III a rendu obligatoire que les titres des écoles, les diplômes des écoles soient donnés gratuitement, il a fallu que l'Église invente des moyens pour offrir un enseignement gratuit qui reposait sur les revenus des terres d'Église, ce qui permettait de payer les professeurs, ce qui permettait d'offrir des bourses ensuite aux élèves.
Les professeurs qui étaient des licenciés, la licence étant donnée, je crois, par les évêques pour et qui donnait le droit d'enseigner.
Voilà,
il y avait ça l'origine de la licence.
Il y avait le baccalauréat SR, puis la licence, puis la maîtrise.
Alors justement, cette école est ouverte à tout le monde, même si tout le monde n'y va pas, et y compris pour les plus pauvres, pour lesquels on a créé, donc, je crois que c'est au XIIIe siècle, les collèges. Le collège, ce n'est pas un établissement d'enseignement à l'origine.
Non. Le premier collège le plus célèbre de tous, c'est évidemment celui qui a été créé par Robert de Sorbon, le chapelain de Saint-Louis.
Au XIIIe siècle.
Il a acheté une douzaine de maisons et avec cette douzaine de maisons qui étaient louées, les revenus de location de ces maisons servaient à payer les bourses d'une quinzaine d'étudiants en théologie. Et par conséquent, toutes leurs études étaient ainsi payées, ils pouvaient suivre les cours, passer leurs examens et mener une vie en commun, de type démocratique d'ailleurs, parce qu'ils géraient ensemble leurs affaires, ils recevaient leurs sommes mensuelles pour organiser leur budget, et par conséquent, c'était en quelque sorte des collèges qui s'auto-administraient eux-mêmes.
Alors, bon, je ne sais pas à quoi correspond justement les écoles avant l'université, parce qu'en fait, ça correspond grosso modo à, c'est l'équivalent de notre école primaire ou du collège, peut-être même du lycée, mais en fait, les études supérieures n'apparaissent qu'avec l'université qui elle-même est contemporaine des collèges, qui a été, je crois, la première, c'est celle de Paris, en 1200 exactement.
C'est ça. Lorsque, à la suite d'une émeute qui avait éclaté dans une taverne dans le quartier de Sancier aujourd'hui, il y a eu un évêque qui est resté sur le carreau, qui avait été nommé évêque de Liège, et les bagarres contre les archers du roi, contre aussi le chancelier de l'évêque, ont fini par aboutir à des négociations très longues, accordant finalement finalement l'autonomie aux écoliers de l'école cathédrale de Paris qui a abandonné l'île de la Cité pour se transférer sur la rive gauche où les cours ont commencé à la rue du Fouarre où on enseignait aux étudiants assis sur des bottes de foin ou de paille et petit à petit cette université c'est une corporation.
C'est-à-dire l'université, c'est ça. C'est pas encore un local, un lieu.
Non, c'est d'abord une corporation. Universitas Magistrorum et Scholariorum, c'est la totalité des professeurs et des étudiants. Et ils s'administrent eux-mêmes. Ils ont une triple autonomie. Autonomie judiciaire, autonomie financière, autonomie en matière d'obtention et de dons des grades, et droit de grève, droit de sécession, etc. Oui. Ça va très loin. Hein. Ils ont fait grève, par exemple, en 1223. Ça n'a pas marché, ils n'ont pas obtenu ce qu'ils voulaient. Ah ben, ils ont fait la sécession, c'est-à-dire qu'ils ont quitté Paris, ils sont allés s'installer à Cambridge. Mmh. Et c'est comme ça que l'université de Cambridge est apparue à la suite d'une sécession de l'université de Paris.
Oui, vous citez, parce que la première, je crois, c'est celle de Paris.
C'est celle de Paris.
Mais dans les années qui ont suivi, dans les 10 ou 15 ans qui ont suivi, il y en a eu dans toute l'Europe. Il y a
partout.
Eu Cambridge, il y a eu Bologne aussi.
Il y a eu Bologne,
universités du Moyen-Âge à l'époque.
Sur le droit, et puis il y a eu Montpellier, qui était surtout fondée sur la médecine. Dès 1180, l'université de Montpellier apparaît avec une faculté de médecine qui est très importante, et c'est la seule faculté où les étudiants sont laïcs. Dans les autres facultés, faculté des arts, faculté de droit romain, faculté de droit canon, et faculté de théologie, et faculté de droit canon, il y a un statut de clerc. Seule la faculté de médecine a pour les étudiants un statut de laïc. Et c'est ça qui est tout à fait original. Déjà, la médecine est de plus en plus autonome.
Mais il n'y a pas de classe ou d'amphithéâtre. Hein. Vous avez là enseigné à Héloïse, je crois, dans les jardins du quartier latin, qu'on appelait quartier latin parce qu'on y parlait le latin, voilà, parce que c'était le langage des étudiants.
Ou à domicile, ou dans petit à petit, à l'intérieur des collèges, lorsque les collèges se sont multipliés, puisqu'on a abouti à plus d'une vingtaine de collèges dans Paris.
Et on accueillait donc des étudiants aussi turcs turbulent que François Villon.
Quand on vous appelait Antoine de Janson, à cette époque, vous portiez comme moi la jatte de cuir.
Votre mémoire est bonne, maître François. Je n'ai entendu la tension que pour faire cette route. Moi aussi, j'ai étudié. Autant de ma jeunesse folle.
Non, laissez cela, je vous en prie, messieurs. J'en ai assez de ces enfants perdus. Je pisse sur Paris, je pisse sur la Pomme de Pin, sur Robin Turgis et sur la Sorbonne. Je ne remettrai jamais les pieds rue de la Juiverie.
On dit ça, maître François.
Ah, cet étrange collège Robin Turgis prépare les bacheliers pour l'université du Gibet de Montfaucon. Dites-moi où, dans quel pays est Flora, la belle Romaine.
Dites-moi où, dans quel pays est Flora, la belle Romaine, Archipia d'Anétaï, qui fut sa cousine germaine. Et qu'au parlant cambrouillon mène de sur rivière ou sur étang, qui beauté eut trop plus qu'humaine, mais où sont les neiges d'antan? Qui beauté eut trop plus qu'humaine, mais où sont les neiges d'antan? Où est la très sage Héloïse, pour qui châtre et fut et puis moine, Pierres Bayard à Saint-Denis, pour son amour eut cette et Swann. Semblablement, tout est la reine qui commanda que Buridan fut jeté en un sac en Seine. Mais où sont les neiges d'antan? Fut jeté en un sac en Seine. Mais où sont les neiges d'antan?
France Inter, 2000 ans d'histoire. Aujourd'hui, l'histoire de l'école.
Et c'était bien sûr Georges Brassens, la ballade du temps jadis, un des plus grands poèmes de Villon, qui étudiait à la faculté des arts libéraux, Michel Rouge, qui était une des quatre facultés de l'université. Vous avez souvent mentionné les arts libéraux. C'était quoi les arts libéraux?
Alors, c'est essentiellement, après la connaissance de l'écriture et du calcul, la grammaire. Puis une fois qu'on connaissait bien la grammaire, c'était la rhétorique, l'art de bien parler, de bien savoir s'exprimer dans des discours capables de convaincre ceux qui vous écoutaient. Puis la dialectique, qui était un instrument terrible parce que c'était l'enseignement de la logique et qui permettait aux étudiants de tenir tête aux professeurs. ce qui fait que les professeurs s'arrachent les cheveux. Quelle époque, les étudiants tiennent tête aux professeurs. Et puis alors après, il y avait les sciences, mais qui étaient des sciences théoriques, arithmétique, géométrie, astronomie, musique. Et enfin, cette faculté des arts permettait d'entrer vraiment dans l'université.
Oui, parce que les arts libéraux, c'était grosso modo l'équivalent, disons, de notre terminale à peu près.
Oui, et de l'humanisme.
Le supérieur, c'est les facultés.
Voilà, le supérieur, lesquelles... ce sont les facultés, c'est-à-dire la théologie qui était la plus importante à Paris, le droit romain qui était surtout enseigné à Orléans, le droit canon pour les clercs, et la médecine et le droit. Alors la médecine, on en était encore toujours à Galien, mais malgré tout, il y avait beaucoup de travaux pratiques. C'est dans la faculté de médecine que les travaux pratiques existaient le plus, et qu'on a étudié, disséqué les cadavres humains dès la fin du XIIIe siècle. Et puis, il y avait le droit, la discipline du droit qui était fondamentale, parce que grâce au droit, on pouvait devenir fonctionnaire et être au service du roi. Et donc c'était un enseignement théorique qui débouchait directement sur un métier. Donc c'était les quatre grandes facultés qui, par la suite, ont toujours marqué l'histoire de l'université. Et vous remarquerez que Buridan, dont parlait tout à l'heure Georges Brassens, Buridan a été professeur à la Sorbonne au XIVe et XVe siècle, et son fameux apologue sur l'âme de Buridan, qui était incapable de choisir entre deux seaux d'eau qu'on avait mis l'un à sa droite, l'autre à sa gauche, a fini par mourir de soif, faute d'être capable de choisir, eh bien cet apologue a été attribué à tort à Buridan, mais Buridan était un très grand savant, un des premiers scientifiques de l'époque.
Et de l'université de Paris, qui était célèbre dans le monde entier, la revue de texte Stéphanie Duncan.
Oui, au XIIIe siècle, l'Université de Paris a acquis rapidement une réputation internationale. C'est ici, à Paris, s'émerveille un clerc de l'époque, c'est ici que l'on peut étudier la philosophie et les arts libéraux, les lois et les décrets. C'est ici que jaillit la source de la doctrine salutaire qui irriguera de ses eaux limpides les prés des esprits des pages consacrées du savoir. Or, la vie de l'étudiant du Moyen-Âge s'apparente alors à celle d'un moine, on peut dire. À ceux qui veulent comprendre les choses cachées, il faut, affirme Jean de Salisbury, il faut l'humilité de l'esprit, le désir de savoir, une vie tranquille, la méditation silencieuse, la pauvreté et l'éloignement du pays. Donc inutile de vous dire que tous les étudiants au Moyen-Âge ne mènent pas cette vie de saint. Donc François Villon, on l'a vu, passe plus de temps dans les tavernes avec les filles qu'à l'école. Et il le regrettera d'ailleurs plus tard. Enfin, je ne sais pas s'il le regrettait vraiment, mais enfin bon, c'est ce qu'il écrit dans son poème. « Et Dieu, si j'eusse étudié au temps de ma jeunesse folle et à bonne mœur dédiée, j'eusse maison et couche molle, mais quoi, je fuyais l'école comme fait le méchant enfant. » Alors sur le travail de l'étudiant au Moyen-Âge, proprement dit, Robert de Sorbonne, donc le fondateur de la Sorbonne, donne une idée un petit peu de cette méthode. Alors premièrement, dit-il, il faut consacrer une heure à une lecture déterminée. Deuxièmement, extraire de sa lecture quotidienne une pensée, une vérité quelconque. Troisièmement, conférer avec ses condisciples dans les disputes, les disputationes. Cet exercice, dit-il, est encore plus avantageux que la lecture, parce qu'il a pour résultat d'éclaircir tous les doutes que celle-ci a pu laisser. Alors c'est d'ailleurs par une superbe disputatio en latin que doivent se clore les études. Un maître de l'université félicite ici le père d'un de ses étudiants. « Réjouissez-vous, chantez, votre fils a célébré son doctorat devant une réunion innombrable de maîtres et d'écoliers. La dispute à laquelle il s'est livré a été glorieuse. Personne n'a été capable de répondre à ses objections. » C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Alors des méthodes qui, à la fin du Moyen-Âge, à leur naissance, voudront les sarcasmes de Rabelais. Son personnage, le très savant Pantagruel, réussit un jour à tenir tête à tous les maîtres de l'Université de Paris dans une énorme disputatio, justement, on peut dire une disputatio pantagruélique. Premièrement, en la rue du Foire, Pantagruel tint contre tous les régents, arciens et orateurs et les mit tous sur le cul. Puis, en Sorbonne, il tint contre tous les théologiens par l'espace de 6 semaines, depuis le matin 4 heures jusqu'à 6 heures du soir. Et notez que de ceux-ci, la plupart prirent le frein aux dents. Mais nonobstant leurs ergots et fallaces, Pantagruel les fit tous quinaux et leur montra visiblement qu'ils n'étaient que des veaux enjiponnés.
Eh ben, on n'a pas attendu 1968 pour contester l'université de ses maîtres. Michel Rouche, Rabelais le faisait il y a 500 ans, au début de la Renaissance.
Oui, mais vous remarquerez que la disputation, c'est le commentaire de texte que nous continuons à pratiquer dans toutes les universités encore aujourd'hui. Il y a là une permanence dans la technique pédagogique qui est assez remarquable.
Alors, c'était des textes qui s'arrêtent à peu près au début du Moyen-Âge. C'est au moment où se termine votre livre. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui de l'école et de l'université du Moyen-Âge et de l'Antiquité.
Eh bien, il reste d'abord une certaine conception de l'homme. Il est possible d'éduquer les hommes, de leur donner toute une série de connaissances les mettant en rapport avec leur monde et qui va permettre aux hommes de s'entendre les uns avec les autres. Autrement dit, l'enseignement est là pour créer un lien social et pour créer une capacité à apprendre. Et dans ce domaine-là, le discours humaniste rend adaptable à toute époque. Ensuite, ce qui est tout à fait caractéristique de cette fin du Moyen-Âge, c'est que quelles que soient les critiques que les humanistes de la Renaissance adressent à l'université, cette université a continué, elle a simplement était en quelque sorte cassé par le roi Louis XI et par le roi Louis XII qui lui reprochaient son indépendance et son autonomie. Ils sont arrivés à la supprimer. Il y a eu une grève épouvantable qui a duré plus de 19 mois, ce qui est bien supérieur à tout ce qui s'est produit en mai 68, à la fin de laquelle les étudiants ont été battus et ont perdu leurs privilèges. Mais néanmoins, l'université, lieu de recherche, lieu de discussion libre, lieu de découverte permanente, reste un fait fondamental de notre société et encore plus de la société anglo-saxonne aujourd'hui. Puisque les grandes écoles qui sont des créations du XVIIIe siècle ainsi que le concours de l'agrégation n'existent pas dans le monde anglo-saxon. Donc cette structure est parfaitement adaptée à un enseignement et à une recherche qui se veulent critiques puisqu'elle continue encore dans le monde anglo-saxon.
On a l'impression en vous entendant qu'au fond il faudrait reprendre les mêmes principes qu'au Moyen-Âge, etc. Par exemple, on faisait un reproche à cette université. Votre livre va du 5e siècle avant Jésus-Christ au 15e siècle. C'est-à-dire 2000 ans. C'est quand même assez extraordinaire. Or, on a l'impression que l'enseignement y est resté un peu immuable, on reproduisait immuable. Au fond un peu la même société, c'était très figé, très rigide quand
immuable
même.
Immuable sur le plan de l'idéal humain, de l'idéal humaniste. Et je crois qu'un idéal humaniste ne peut pas, en quelque sorte, évoluer. On est obligé de promouvoir les mêmes règles de comportement entre hommes pour s'entendre et vivre en société. En revanche, le contenu de l'enseignement avait quand même considérablement évolué par rapport au début de l'Antiquité, ne serait-ce que l'enseignement de la logique, et ne serait-ce que l'apparition du terme de « scientia experimentalis » dans la bouche de Roger Bacon. Même si la science technologique, même si la science appliquée n'est pas encore au point à la fin du Moyen-Âge, déjà, elle pointe.
Merci Michel Rouge. Pour en savoir plus, je recommande vivement donc la lecture de votre livre « Une histoire de l'enseignement et de l'éducation du 5e siècle avant Jésus-Christ au 15e siècle ». Un livre qui est tout à fait nouveau, on n'a jamais écrit sur cette période une histoire globale de l'enseignement. Et un livre qui a été réédité en poche chez Perrin dans l'excellente collection Timpus. Vous avez également écrit chez CLD, Sexualité, Intimité et Société, donc sous le regard de l'histoire. C'est donc mon invité d'aujourd'hui, donc Michel Rouge. À lire également l'histoire de l'enseignement et de l'éducation de 1480 à 1789, la suite de votre livre, Michel Rouch. Hein, c'est un livre de François Lebrun, Marc Vénard et Jean Quiénard, publié aussi dans la collection Timpus. Enfin, une histoire de l'école Maîtres et Écoliers de Charlemagne à Jules Ferry, de Pierre Jolitot, publié chez Imago. Et puis un numéro spécial d'Historia consacré ce mois-ci à l'école. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants. François Villon, d'André Svobada, distribué en cassette par René Château. Charlemagne, le prince à cheval, un téléfilm de Clive Donner. Et enfin, Alexandre le Grand de Robert Rossen, distribué en cassette par Warner Home Video. Vous pouvez retrouver ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute, ou consulter le site de notre émission.